Bienvenue à Une heure en Palestine, animé par Palestine 13, groupe local de l'association France-Palestine Solidarité. Je vous invite à parcourir notre site pour les actualités et pour l'agenda. Je suis Anne et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir, encore une fois, Claude Zurbach. Claude, tu es profession d'ingénieur dans la recherche. Tu es investi dans la cause palestinienne depuis de nombreuses années. Tu es également traducteur de livres, notamment les derniers sous la direction de Ramzi Baroud, Notre vision pour la libération et Ces chaînes seront brisées. Tu es aussi éditeur du site francophone Chronique de Palestine. Aujourd'hui, tu es venu nous parler de l'intelligence artificielle et de son utilisation dans la vie de tous les jours des Palestiniens dans les territoires occupés et comment elle s'y infiltre du plus intime jusqu'à la mise en pratique du génocide. Claude, bienvenue. Alors, un petit point, s'il vous plaît, sur les conflits au Proche et Moyen-Orient, on pourrait dire l'Asie de l'Ouest, ainsi qu'en Palestine occupée.
Très bien. Bon, je pense que je vais commencer par un petit préalable, parce que le thème qu'on va aborder aujourd'hui est un thème un peu complexe, avec qui en temps normal demande beaucoup de développement, mais nous allons présenter ça de manière pédagogique et synthétique, et bien mesurer les enjeux de l'intelligence artificielle et le rapport avec les conflits au Moyen-Orient et en ce qu'on peut appeler l'Asie donc de l'Ouest apparaîtra assez évident, puisque les outils d'intelligence artificielle sont utilisés maintenant à grande échelle dans des guerres devenant de plus en plus meurtrières. Donc, ce que je peux vouloir signaler, c'est que il y a pas mal d'années, j'avais fait une lecture assez approfondie d'un ouvrage de Jeff Halper. Jeff Halper est un Israélien qui a longtemps dirigé une petite association contre les démolitions de maisons palestiniennes. Et donc, il avait écrit un livre qu'on peut traduire par La guerre au peuple. Voilà. Et c'était, maintenant il y a une bonne quinzaine d'années, la première approche assez générale sur l'utilisation des nouvelles technologies dans les systèmes de surveillance et de domination. Bon, toutes les expériences coloniales ont connu des systèmes de domination extrêmement sophistiqués, mais toujours en rapport avec les technologies disponibles à l'époque. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut considérer que les technologies de l'époque coloniale des années 30, par exemple, et des années 40, étaient des systèmes de domination à basse technologie, mais qui obéissaient aux mêmes principes et aux mêmes objectifs. Aujourd'hui, Jeff Halper expliquait en préambule que lui n'était pas spécialiste des questions militaires et qu'il avait eu beaucoup de mal à rentrer dans des considérations qui n'étaient pas les siennes, mais il avait tenu à faire ce travail d'étude et de rendu, de manière à ce qu'à la lecture, on mesure vraiment les enjeux de ce que ça représente. Donc j'ai eu un peu le même souci, toute proportion gardée, hein, parce que Jeff Halper est une personnalité, bon, vraiment c'est quelqu'un à part. Mais en me plongeant dans ce problème, où je découvrirais des grandes lignes de choses que je connaissais, et que j'ai même pu pour une partie pratiquer dans ma vie professionnelle en termes de manipuler des données extrêmement volumineuses, utiliser des réseaux extrêmement puissants et des grosses puissances de calcul, mais pour des données à but scientifique, je me suis rendu compte que ce n'était pas mon domaine de prédilection et qu'il fallait que je fasse l'effort de vraiment essayer de me spécialiser autant que possible pour assurer un rendu qui soit exploitable. Donc, j'en suis sorti au premier abord profondément écœuré, je dois le dire. Hein, c'est-à-dire que On découvre un monde de violence industrialisée, institutionnelisée, pour lequel il n'y a pas de limite.
Et aujourd'hui. Un monde de finance, de profit.
De profit. Et aujourd'hui, comme l'explique très bien Albanese dans son dernier rapport, c'est qu'on est passé d'une économie de l'exploitation, de la spoliation, qui est vraiment l'économie de, et de la domination, qui est vraiment l'économie de l'occupation. Et depuis octobre 2023, on est passé à l'économie du génocide. Donc c'est un pas nouveau qui a été franchi. Alors, bon, malgré ça, je vais quand même brosser le tableau général. Et puis, on verra tout à la fin qu'il y a quand même des recommandations qui existent, parce que des gens ont réfléchi, ont travaillé sur la question, et proposent quand même des pistes pour que, je dirais, le mouvement citoyen au niveau international, le mouvement de solidarité avec la cause palestinienne, puisse s'emparer du sujet de l'intelligence artificielle et de son utilisation dans les conflits, et particulièrement dans le génocide à Gaza, et proposer des moyens quand même de faire avancer le droit international et de stopper une dynamique qui m'a fait penser que peut-être on était dans un point d'entrée d'une époque d'extermination massive industrialisée. Voilà. C'est effrayant, hein, ça donne froid dans le dos. Bon, y a eu dans l'histoire des pas comme ça qui ont été franchis, par exemple la Première Guerre mondiale 14-18, quand on s'est rendu compte qu'on pouvait mettre au service de la guerre toute une économie, toute une industrie. Ça, c'était un phénomène nouveau. Ça a eu un effet profondément délétère sur beaucoup de milieux intellectuels et tout. Et il y a eu, par exemple, une véritable crise dans la production de la littérature américaine, je crois, après la Première Guerre mondiale. Ça a été un choc. Aujourd'hui, on est dans une époque un petit peu comparable où c'est l'intelligence artificielle qui est en cause. Alors, sur l'IA, je dis quelques mots sur l'IA.
Anne, oui, présente-nous les grands concepts, oui. Claude, son importance.
Oui, alors je vais rester sur vraiment des généralités, parce que je ne tiens pas à faire la promotion des outils qui sont utilisés là-dedans. C'est le piège, hein, c'est qu'on rentre dans des considérations techniques. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'intelligence là-dedans, beaucoup de travail et tout, et on se retrouve indirectement à faire la promotion d'outils essentiellement mortifères. Non, ce que je veux, c'est qu'on ait une approche de l'intelligence artificielle du point de vue de la société, du point de vue des utilisateurs et de ce qu'on va en subir aussi. Donc, cette IA, déjà, le terme est pas approprié. Il y a, par rapport à ça...
Pourquoi ?
Oui, par rapport à ça, il y a toujours une énorme pression psychologique, et parce que derrière, il y a des enjeux financiers énormes. Donc, on crée un état d'esprit. Et on réduit quelque chose qui est quand même très complexe, qui a toute une histoire... En deux mots, intelligence artificielle, comme si tout le monde se retrouvait finalement devant quelque chose d'inéluctable, d'inévitable, une espèce de boîte noire qu'on ne peut pas décoder parce qu'on n'a pas les moyens de décoder. Bon, il faut changer cet angle de vue et il faut se dire on peut se réapproprier les choses pour peu qu'on nous les explique clairement en mesurant bien les enjeux. Alors, l'IA, ça se réduit en définitive à assez peu de concepts. C'est-à-dire que ce sont des masses de données énormes, mais absolument énormes, collectées tous azimuts, qui sont des données individuelles, collectives, des données sur des infrastructures, des données sur des pays, des données sur l'histoire. On peut imaginer que toutes les activités humaines, de toute façon, peuvent être traduites à un moment donné en données, en data. Bon, ce qu'on appelle l'IA, alors je vais reprendre le terme de l'IA pour simplifier, mais même si aujourd'hui on est incapable de définir clairement ce qu'est l'intelligence. Donc d'autant moins l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est un concept commercial. Et c'est ça qu'on nous impose. Bon. Mais si on cherche à décrypter l'intelligence, c'est quelque chose de trop complexe pour se réduire à quelque chose comme ça. Donc ce sont des masses de données illimitées, parce qu'on a des capacités de stockage aujourd'hui sur un plan technique qui sont illimitées. On a ce qu'on appelle des data centers. Alors, les data centers qui sont opérés par les grands noms qu'on connaît, Google, Microsoft, Amazon, Oracle, et j'en oublie. Donc, ces data centers sont répartis partout sur le globe. Ces data centers sont une question environnementale terrible.
Ils sont souvent implantés dans chez les populations
exposés déjà.
Oui, voilà,
c'est ça. Donc on retrouve tous les schémas habituels, c'est-à-dire que Bon, vous avez des data centers qui doivent être refroidis constamment parce que ça produit un monde de chaleur. Donc on va les trouver au nord de la Finlande, au nord de la Suède, des choses comme ça, pour profiter du contexte climatique. On va les trouver aussi en Afrique parce que ça consomme beaucoup d'eau. On va les retrouver au Nigeria parce qu'au Nigeria, c'est des systèmes autoritaires qui font que les populations sont relativement démunies pour protéger les ressources aquifères, alors qu'en Europe, bon, ça soulève quand même des protestations. Donc, on retrouve tous les schémas habituels d'exploitation au niveau planétaire. Donc, ces data centers sont répartis un peu partout. Et ça, ce sont les données. Après, il y a la puissance de calcul. Parce que ces données, il faut les exploiter. Il faut en tirer des recommandations. Il faut en tirer des lignes de conduite. Bon. Donc, c'est ces centres d'exploitation qui sont composés de processeurs en bataille, en rangée, en baie, tout ce qu'on veut et tout, mais qui sont très considérables, ont besoin aussi d'énergie. Et ont besoin aussi de constamment d'eau, constamment de refroidissement. Bon. Et on en est à un point aujourd'hui où les grands opérateurs des data centers et des data computing, enfin des data computing centers, les centres de calcul, demandent à être raccordés directement sur des centrales nucléaires. C'est le cas aux États-Unis, hein, parce que c'est tellement demandeur en énergie. Et des projections disent bien que dans quelques années, peut-être 20 ou 25% de la consommation totale d'énergie au niveau de la planète sera consommée par tous ces centres de stockage et de calcul au niveau de l'IA. Donc, il y a un aspect qui est très trompeur dans cette affaire-là. C'est que tout le monde connaît ChatGPT. Alors, ChatGPT, je tiens à le réduire à un terme bien précis. On appelle ça un agent conversationnel. C'est-à-dire que c'est une espèce d'interface automatique, hein, c'est pas une personne réelle qui vous répond, qui prend des questions et qui produit des réponses. On appelle ça un agent conversationnel parce que c'est lui qui permet d'interagir avec toute l'énorme boîte noire qui est derrière. Et cet agent conversationnel donc va vous sortir des réponses surprenantes, va vous donner des références de tas de documents dans tous les sens, références historiques et tout, dans un délai relativement court. Il y aura forcément la version payante parce qu'il y a beaucoup d'enjeux commerciaux derrière, mais vous utilisez la version libre, donc vous avez des réponses qui vous stupéfient. Mais derrière, il y a d'énormes recherches et d'énormes calculs. Et peut-être que l'IA, sa véritable limite, c'est la question environnementale. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il y a d'autres limites dans l'utilisation de l'IA aujourd'hui, mais la question environnementale, elle risque de s'imposer. À un moment donné, ce ne sera plus possible d'avoir un outil aussi coûteux en énergie et aussi qui dilapide autant d'énergie. Pourquoi finalement, pour l'essentiel de requêtes qui n'ont pas de sens ou qui n'ont pas de grand intérêt Alors, ça c'est l'IA dans sa généralité. C'est-à-dire qu'il y a les données, il y a le calcul sur les données et il y a l'agent conversationnel qui permet de communiquer avec tout ça.
Juste une question au niveau de l'agent conversationnel. Moi, je voudrais savoir, est-ce que les questions posées augmentent son intelligence, sa capacité de réponse?
Oui, dans un sens, parce que les questions entraînent des réponses qui elles-mêmes sont stockées et sont prises en considération pour les réponses plus tard à venir. Donc, moi, je me suis amusé à tester un petit peu, hein, mais je n'ai pas testé ChatGPT, j'ai utilisé un outil chinois qui s'appelle DeepSeek, qui a coûté beaucoup moins cher en développement, quelques millions de dollars, je crois à peine, parce que c'était des logiciels libres qui ont été utilisés. Il y a encore à peu près un an, DeepSeek, quand je l'interrogeais sur des questions un peu pointues autour de la Nakba, de l'expulsion et la spoliation des Palestiniens en 1948, me donnait des réponses qui étaient intéressantes parce qu'elles étaient historiquement bonnes et elles étaient vraiment exploitables. Il n'y avait pas de nouveauté, c'est pas créatif l'IA, hein, ça vous donne des choses qui sont connues, ça va vous les mettre en forme et ça va vous les restituer, mais c'est pas créatif. Donc toutes les données qui me ressortaient étaient correcte sur le plan historique
et l'interprétation.
Il n'y avait pas de censure à ce moment-là. J'ai refait les mêmes interrogations il y a de cela quelques semaines, un peu dans le cadre de la préparation de cette émission, et là j'ai vu qu'il y avait de la pondération qui avait été mise. C'est-à-dire que ces agents conversationnels sont pondérés au sens où on leur injecte des règles. Alors là, on lui a injecté des règles qui étaient de dire plutôt il faut tenir compte de plusieurs avis, et on dit ceci, mais c'est peut-être cela et tout. Et ça devenait beaucoup moins intéressant en point de vue contenu. Ça devenait
flou.
Ça devenait flou et ça devenait inintéressant, je dirais quoi. Alors que sur les questions historiques, on peut avoir des opinions tranchées et il faut avoir des opinions tranchées quand on a les moyens de le faire. Donc La pondération, alors je vais prendre un exemple qui est caricatural et qu'on trouve dans tous les manuels de présentation, c'est que si par exemple vous posiez la question qui je dois inviter pour ChatGPT, vous lui demandez qui est-ce que je dois inviter pour que mon réveillon de Noël soit réussi. Et bien il vous répondait, inviter Adolf Hitler. Voilà. Là vous aurez un scoop. Bon, donc ça c'est vraiment la caricature. Mais donc par rapport à ça, l'agent conversationnel, le modèle de données qui est derrière pour former ses réponses, il faut leur dire, attention, il y a des règles de bonne conduite, il y a des choses qu'on dit et des choses qu'on ne dit pas. Voilà. Donc, on influe la réponse. Il peut y avoir un autre exemple, mais qui est, je crois, assez réel, du moins tout au début. On disait, comment résoudre toutes les questions environnementales et le changement climatique? Et l'agent vous répond, il faut supprimer la race humaine. Ce qui est juste, d'une certaine manière. Ben, ce n'est pas l'objectif souhaité des gens qui posent la question. Voilà. Donc ça, il faut pondérer, il faut corriger. Donc ça va vous restituer des réponses qui sont mainstream, qui sont convenues. Enfin, c'est un peu tiède comme les films que vous regardez dans un avion, quoi. C'est-à-dire, il faut que ça plaise à tout le monde. Voilà. Bon, alors maintenant, sur l'IA, il y a l'application dans le domaine militaire. Bon. Ce qu'il faut noter, c'est que tous ces mécanismes, traiter des données, beaucoup de calculs, poser des questions, avoir des réponses, avoir des scénarios, c'est appliqué sur le champ militaire. Et la première fois que ça a été fait de manière assez systématique en Palestine, c'était, je crois, en 2021, pendant une offensive sur Gaza. Ensuite, ça a été généralisé à partir d'octobre 2023, mais en s'appuyant sur des outils qui existaient déjà. Donc l'IA telle qu'on nous la vend aujourd'hui n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. Derrière, vous avez des techniques qui ont demandé des décennies de travail. Et les fonds baptismaux de l'IA, vraiment les fonds baptismaux, c'est ce qui a donné sa naissance, sa création et tout, son baptême, c'est la reconnaissance faciale et c'est la reconnaissance vocale. C'est ça qui a permis l'explosion, c'est ça qui a permis le développement des technologies. Ce sont les deux axes. Ces deux axes sont des axes potentiellement très répressifs. Donc l'IA, ces fonds baptismaux, ce sont des outils de répression et de surveillance. Voilà. Il ne faut jamais, jamais l'oublier. C'est ça qui a créé les besoins et qui a donné l'argent qu'il fallait. Après, l'IA, c'est devenu une bulle financière qui s'est cassée la figure deux fois dans les années 90. Et c'est la reconnaissance faciale qui l'a sortie de la mouise. Et aujourd'hui, vous avez des effets d'annonce, des centaines de milliards par Oracle, par Microsoft, Amazon et qui vous voulez, qui sont aussi des manières de booster booster leur cotation en bourse. Voilà. Donc, y a une bulle autour de l'IA aujourd'hui qui, de toute façon, va exploser à un moment ou à un autre. On est dans une économie de casino. L'objectif, c'est de faire le maximum d'argent. Ça, c'est clair.
Il n'y a pas de déontologie, il n'y a pas de charte ou d'éthique pour ceux qui... Pour l'instant, oui. Peut-être on va en parler un peu plus tard.
Oui, mais on peut le traiter très rapidement. C'est que il n'y a pas de règles. Et le droit international ne couvre pas ce champ-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de charte internationale. Traité de Rome ne traite pas ces questions-là. Donc, il n'y a aucune contrainte. Et c'est un champ libre pour faire tout et n'importe quoi. Et il n'y a aucun principe de précaution. Ce n'est pas parce qu'une technologie est abordable, faisable, qu'il faut forcément la faire. Voilà. Il faut réfléchir. Il faut penser aux implications. Et il est trop facile pour les ingénieurs et les scientifiques qui travaillent là-dessus de dire l'outil, il est neutre, c'est la mauvaise utilisation qui en est faite qui est en cause. Non, 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 à la source, ceux qui créent l'outil ont leur part de responsabilité. Et c'est trop facile de se défausser comme ça. Alors, sur l'IA, je vais essayer d'être synthétique sur l'application la plus récente et à grande échelle, c'est la guerre menée contre l'Iran. Alors je dis mener parce que apparemment il y a un cessez-le-feu qui serait convenu pour 15 jours, qui à mon avis représenterait, s'il s'applique, une victoire diplomatique et militaire pour l'Iran, c'est indéniable quoi, qui marque un basculement quand même en termes de rapport de force au niveau international. L'axe israélo-US a dû plier quoi, c'est ce qui apparaît. Bon, après, les violences continuent au Liban, plus que jamais, parce que les Israéliens auront comme premier souci de faire capoter tout ça. Mais quand même, à la base, le cessez-le-feu a été convenu sur les conditions iraniennes. Alors c'est quand même assez extraordinaire, quoi. Bon, on ne va pas développer sur l'Iran, ça supposerait une émission à part. Mais en tout cas, là, il y a un point de rupture qui a été imposé. Ensuite, alors, dans l'application de l'IA sur l'Iran, le Pentagone a appliqué quelque chose qu'ils ont commencé à développer déjà en 2016, 2017 et tout, un projet qui s'appelle Maven, et qui a comme slogan « The kill chain », la chaîne pour tuer. Voilà. Donc, c'est la chaîne pour tuer, c'est comment...
Comme slogan, c'est-à-dire qu'ils en sont fiers.
Ils en sont fiers en interne. C'est, quand ils parlent de ces outils-là, c'est the kill chain. C'est comment on identifie les cibles le plus rapidement possible et de manière à avoir non pas une centaine de cibles qu'on va toucher dans la journée parce qu'il y aura, à un moment donné, une étude humaine des données, on va vérifier les choses, etc., mais on automatise tout.
Mais normalement, il y a quand même l'humain qui intervient avant de passer à...
Eh bien, même plus, quoi. C'est-à-dire que si intervention humaine, ça on le verra tout à l'heure quand on parlera de Gaza, c'est quelqu'un qui appuie sur une touche 120 fois dans la minute s'il faut, pour valider. Voilà. Il n'y a aucune vérification qui est faite. L'agent humain est tout à fait formel et on le maintient, on se demande des fois pourquoi. Parce que dans ces questions de kill chain, on identifie des cibles, on veut utiliser des données publiques pour tous les bâtiments administratifs en Iran, toutes les écoles, tous les hôpitaux, les ponts, les structures routières, les centres de distribution alimentaire, tout ce qu'on veut, les gares et tout, quoi. On va tout identifier avec des données publiques qui sont disponibles sur le net.
Pourtant, ils se sont trompés sur l'école au début.
Oui, alors justement... Justement, alors sur la question de l'école de Mihab, où ils ont massacré 170 plus, même jeunes écolières, on ne parle même pas des blessés qui vont mourir entre-temps et tout, quoi. Moi, c'est encore plus, mais là c'est typique. C'est qu'il y a une cible qui avait été identifiée par leur système de kill chain, et cette cible, elle était outdatée. C'est-à-dire que ça remontait à quelques années et c'était repéré comme un centre militaire. Donc ça a pu être un centre militaire, mais en tout cas la donnée n'a pas été mise à jour parce que le système a fait une erreur. Et dans des systèmes automatiques comme ça, il y a forcément toujours une part d'erreur et une part de manque de précision, quoi. Alors, donc la donnée pas à jour, ils bombardent. Alors ils ont bombardé avec un missile Tomahawk, je crois, c'est ça, parce que le système va suffisamment loin pour dire ce type de cible, voici le type d'arme qu'il faut. Donc, derrière, très vite, vous avez un drone automatique, pourquoi pas. Enfin, on peut pousser l'automatisation très loin. Donc là, missile Tomahawk, pour une cible prétendument militaire, c'est une école de fillettes, et on massacre tout le monde. Bon.
Alors, en plus, c'était double attaque double, non ?
Oui, ce sont les attaques doubles.
En plus.
Les attaques doubles, maintenant, sont généralisées par les Israéliens qui étaient précurseurs en la matière.
Ça, c'est un crime de guerre, non ?
C'est crime de guerre. C'est-à-dire que première frappe, les secours arrivent, et deuxième frappe. Donc vous doublez l'aspect meurtrier de ce qui est fait. C'est d'une cruauté, d'un sadisme, mais qui est, en termes d'être généralisé et d'être accepté. Sur l'histoire de l'école de Mihab, c'est présenté comme ça, on va dire « Ah, c'est pas de chance, c'est les données n'étaient pas à jour, c'est la faute au système et tout. » Et on oublie complètement l'aspect humain. L'aspect humain, ce sont les gens qui ont pris la décision de faire la guerre à l'Iran. Voilà, la responsabilité, elle est à ce niveau-là, et elle est imparable. Et tout le reste ne sont que des conséquences. Mais la décision primaire, c'est celle-là. Donc il ne faut pas s'égarer dans des discussions sur le système lui-même, qui de toute façon va produire des erreurs, par définition. Voilà. Alors, dans le cas de l'Iran, donc, généralisation à grande échelle de l'IA pour identifier des cibles, premier jour de guerre, premier jour de bombardement, 1000 cibles, c'est énorme, quoi. Et là, au moment où on parle de cessez-le-feu, on doit être à 18 000, 19 000 ou 20 000. Donc après, on pondère, c'est-à-dire qu'on va rentrer des paramètres dans la kill chain pour dire, on va faire les écoles. Allez, on fait les écoles. On va faire les hôpitaux. On va faire les hôpitaux. Aujourd'hui, au Liban, ils en sont à bombarder les hôpitaux à nouveau. Hein. C'est-à-dire les Israéliens. Donc on va faire les hôpitaux. On va faire les transports. On va faire les ministères. C'est open bar, on fait ce qu'on veut, quoi. Et on laisse finalement le système travailler de manière autonome en lui donnant simplement au départ une orientation. L'orientation, c'est dire on va tolérer tel pourcentage de victimes civiles, etc., etc., quoi. Donc c'est pour ça que mon sentiment, ça a été un peu dur. J'étais un peu déstabilisé en me disant, bon, on arrive à un niveau de volonté meurtrière et d'outils sophistiqués pour ça, qui quand même pose problème, quoi. On se demande quel est l'avenir du genre humain si cet aspect-là n'est pas maîtrisé, quoi.
Et la question des civils et des militaires,
oui.
On fait une différence ou pas ?
Eh bien, les civils sont... Alors, oui et non, quoi. Dans le cas de Gaza, on verra tout à l'heure qu'il est considéré comme normal. Quand on cherche à tuer un combattant ou une combattante de la résistance, hein, du djihad islamique ou du Hamas, eh ben, les meilleures conditions pour le faire, c'est quand ces gens-là sont au sein de leur famille. Et on élimine la famille. Voilà. Là, c'est délibéré.
C'est « where's daddy ?» Où est papa ?
Oui, where is daddy ? Des outils comme ça, quoi. C'est qu'on tue toute la famille. Et parce que la famille, c'est aussi des frères plus jeunes qui peuvent devenir des combattants. Et il faut terroriser. Et puis, il faut, comme ils disent, éradiquer toute volonté, toute possibilité de résistance. Donc, l'aspect civil-militaire rapidement gommé. Et les campagnes israéliennes et américaines sont essentiellement des campagnes aériennes. Donc, avec des gens qui sont isolés, à l'abri, qui bombardent sans avoir même la volonté de savoir ce qui se passe au sol suite au bombardement. Ce sont des civils, quoi, qui sont ciblés.
Je propose qu'on fait une petite pause musicale maintenant.
Volontiers, oui.
Voilà, nous allons écouter Ahmad Kabo, qui est mort récemment à Beyrouth et qui a chanté toute sa vie des choses que la guerre efface.
I should. أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي وصمت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي وصمت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أناديكم أناديكم
Alors nous venons d'écouter Una Dikom de Ahmad Kabo, chanteur libanais. Alors Claude, revenons à la Cisjordanie maintenant, qui est une histoire ancienne. Parle-nous un petit peu de l'IA.
Voilà. La Cisjordanie a expérimenté, donc déjà avant Gaza, principalement les systèmes de reconnaissance faciale et aussi les systèmes après de traitement de la voix. Pour constituer des bases de données qui, pour l'occupant israélien, qui identifie quasiment chaque individu.
Traitement de la voix, donc on peut savoir qui c'est à partir de la voix.
Oui, c'est-à-dire que traitement de la voix, c'est, enfin, d'une manière générale, c'est que vous récupérez des enregistrements de conversations téléphoniques, quel que soit l'outil que vous avez utilisé pour communiquer. Et ensuite, cette voix, elle est renumérisée, elle est traitée. On y adjoint des étiquettes pour identifier qui c'est qui a parlé, à quelle occasion, etc. Quel était le sujet principal, combien de temps a duré la conversation. C'est-à-dire qu'on y rajoute des métadonnées, mais qui caractérisent la conversation. Donc, la conversation téléphonique, elle est effectivement, en Cisjordanie, depuis longtemps, elle est interceptée, elle est stockée. Dans le contexte des accords d'Oslo, de toute façon, il était convenu que les opérateurs de tout système de communication dans les territoires occupés seraient israéliens. C'est eux qui possèdent les serveurs, qui possèdent les réseaux. Enfin, bon, pour une part, les Palestiniens peuvent un petit peu intervenir dessus, mais pour l'essentiel, tout transite par les systèmes israéliens. Donc, à la base, ils ont tout capturé depuis longtemps. Les systèmes de reconnaissance faciale, c'était aussi de pouvoir, dans la rue, même dans une foule, avec des images de mauvaise qualité, reconnaître qui était présent, identifier tout de suite de manière automatique si c'était quelqu'un qu'on considérait comme négligeable ou quelqu'un qui pouvait être recherché ou soupçonné. Là, on a vraiment exploité la reconnaissance faciale telle qu'elle était mise à disposition dans les premières années quoi, du développement de l'IA. Donc ça remonte quand même à pas mal d'années maintenant. Alors on a constitué des bases. Il y a des systèmes, on appelle ça, développés par les Israéliens, mais en s'appuyant sur des technologies de Microsoft, pour le traitement de photos. Enfin bon, il y a eu à ce moment-là des apports techniques qui sont venus d'entreprises de la Silicon Valley pour constituer une base qui répertorie quasiment l'intégralité de la population de Cisjordanie. Donc, il y a eu un package qu'on a appelé Wolf Package. Bon, le loup, alors Wolf. Parce qu'après, vous avez eu déclinaison de Blue Wolf, qui était un traitement d'image et un stockage d'images et de photos associés à des données de carte d'identité pour tous les Palestiniens des zones occupées. Et après, vous aviez un autre package de Wolf, un sous-ensemble, qui lui était réservé aux colonies et qui était à l'usage des colons, qui à ce moment-là pouvaient automatiquement reconnaître et identifier les gens qui étaient autorisés à venir travailler ou pas. Voilà. Donc, on a décliné ces outils. Et bon, les Palestiniens de Cisjordanie, depuis longtemps, se sentent espionnés à un point absolument inimaginable. Des caméras partout aussi, qui sont pointées vers l'intérieur des maisons.
Les drones qui entrent.
Les drones présents en permanence. On n'est jamais arrivé à un degré de sophistication tel dans la surveillance d'une population. Là où il faut faire attention, c'est qu'il y a un discours aussi autour de ça, où les Israéliens prétendent de vendre leur technologie en les présentant comme quelque chose d'original et quelque chose de pointu. C'est pas vrai. Ils sont pas plus forts ou ils développent pas de meilleurs outils que d'autres. C'est que simplement, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont aucune inhibition. C'est-à-dire que vous généralisez un système de reconnaissance faciale aux États-Unis ou en France. Bon, en France, il y a eu des tentatives à l'occasion des Jeux Olympiques à Paris. Il y a quand même eu des protestations, par exemple d'Amnesty International, et des gens qui expliquaient que c'était illégal ce qui était fait. C'est-à-dire, l'idée, c'était de, sous couvert de lutte antiterroriste, il fallait pouvoir identifier les visages de tous les gens qui venaient assister aux épreuves. Donc, il y a eu quand même des protestations, ça a quand même fait du bruit. Donc, il y a quand même des freins et des réticences. Dans les territoires occupés, il n'y a rien de tout ça.
C'est que Il n'y a pas de frein.
On pousse le système à son extrémité. On généralise sur tous les individus, petits, vieux, grands, hommes, femmes, etc. Il n'y a absolument aucune limite. Et on peut derrière emprisonner, tuer, enfin prendre la décision qu'il faut. Et alors ça, ça intéresse beaucoup de monde sur la planète. Et Albanaise, elle le décrypte et elle le dénonce très bien dans ses rapports, quoi. C'est l'industrialisation de l'oppression, du colonialisme, du génocide. Donc, plein de systèmes autoritaires, policiers et tout, même en France, hein, intéressés par tous ces outils d'espionnage. Pegasus, qui est le petit agent qui s'installe dans la téléphonie mobile pour stocker des données téléphoniques et puis les communiquer à l'extérieur, enfin tout ça. Bon. Donc, il n'y a pas de savoir-faire technique particulier des Israéliens. Il s'appuie beaucoup sur des technologies développées par d'autres. Mais il n'y a pas de frein. Et c'est ça qui intéresse au niveau international. C'est que les systèmes sont poussés à leur extrémité. Alors voilà pour la Cisjordanie.
Est-ce que tu peux parler un peu de Gaza ?
Voilà. Alors Gaza, Gaza, c'est vraiment... il faut que ça reste vraiment un sujet central, quoi. C'est que, avec ces dernières semaines, les bombardements massifs sur l'Iran et puis sur le Liban... Forcément, déjà, le sujet est occulté, mais il l'était encore plus que d'habitude, quoi. Et nous-mêmes, à certains moments, on est un peu débordés en se disant, mais quelle est la priorité ? De quoi faut-il parler avant tout ? Et il faut ne jamais, jamais oublier Gaza. Gaza est invisibilisé plus que jamais. Donc, c'est absolument sans limite. On peut, à certains moments, fermer Rafah, on peut interdire les médicaments, on peut interdire le lait maternisé, enfin... Tout est bon pour rendre la vie impossible. Ce qui est dramatique aussi, c'est l'interdiction complète de tout matériel de reconstruction, même simplement des Algeco pour que les gens soient un petit peu à l'abri. Les conditions de vie sont infernales. Il y a un génocide qui se poursuit, et les chiffres que l'on peut avancer sérieusement aujourd'hui, c'est de dire que de manière directe ou indirecte, vous avez 10 à 20% de la population de Gaza qui aurait été tuée. Qui sera morte suite à l'entreprise génocidaire qui a commencé en octobre 23. Voilà. Alors, bon, Gaza, maintenant, a subi de plein fouet tous les développements qui ont été faits autour des systèmes oppressifs, la reconnaissance faciale, par exemple. Et ces outils ont été mis en œuvre spécifiquement dans le contexte de Gaza, avec des soutiens techniques pour créer un projet qui s'appelle Nimbus. Alors Nimbus, c'est des ressources en stockage de données et puis des ressources en calcul Et au milieu, un système développé par les Israéliens avec, je pense, Palanta, enfin bon, des entreprises américaines, qui s'appelle Lavender. Alors Lavender, c'est la kill chain aussi à l'échelle de Gaza. C'est une kill chain où, une chaîne pour tuer, où on a pondéré de manière très simple, comme je disais tout à l'heure, en décidant que quand on veut tuer un militant de la résistance, on tue la famille et on le tue chez lui. Voilà. Donc on sait qu'on va tuer tout le monde autour. Et le facteur humain, ce sont des témoignages tout à fait crédibles hein, qui ont été repris, disent bien que simplement le contrôle humain, c'est une validation sur une touche. C'est-à-dire que vous avez peut-être une centaine de cibles qui ont été identifiées et qu'on va vous proposer très rapidement et plus simplement vous valider. Il n'y a aucun contrôle humain, il n'y a aucune vérification du fait. Et de toute façon, à la base, on s'en fiche des pertes civiles.
Et oui.
Ça fait partie du dispositif, quoi. Bon, donc, l'IA dans Gaza, c'est ça. Et ça profite à plein de monde. Et c'est une vitrine sanglante, qui est absolument horrible, mais qui est vendue à l'extérieur. Et pour lesquelles beaucoup de gens sont intéressés. Albanese a répertorié, je crois, quelque chose comme 1650 entreprises en dehors des territoires occupés qui étaient impliquées dans la machine militaire israélienne.
Au niveau mondial ?
Au niveau mondial, 1650. Je crois que c'est le dernier chiffre qui est sorti. Probablement plus, mais enfin, en tout cas, c'est ce qui a été identifié. Bon, donc maintenant sur Gaza, en conclusion, hein, c'est que du point de vue du mouvement de solidarité, il faut que le sujet reste absolument présent. Parce que la question palestinienne, elle est toujours centrale dans tous les conflits proches, Moyen-Orient. Enfin, cette question, elle n'est pas solutionnée. Elle sera toujours une pierre d'achoppement. Quelque part, elle est un peu à l'origine de beaucoup d'autres conflits qui se sont développés. Donc, cet aspect-là, il faut vraiment le conserver en tête. Alors, peut-être, je peux dire un mot sur... face à tout ça, quoi. Qu'est-ce qu'il est possible de faire et qu'est-ce qu'il est possible de dire ?
Oui.
Oui. Alors, je me suis rendu compte en préparant ce sujet qu'il y a beaucoup de littérature quand même, hein, et de bonne littérature sur la question de l'utilisation de ces outils dans des contextes guerriers comme ceux qu'on connaît aujourd'hui. Bon, donc, Oui, alors peut-être avant de passer aux recommandations, je vais vous faire une lecture d'un extrait, d'un témoignage fait par un journaliste de Gaza qui, lui, a pu finalement, avec sa famille, partir en Égypte, mais qui a écrit sur comment ça se monnaie, comment ça se traduit sur le terrain, un système d'identification et de reconnaissance faciale quand on est pris dans le contexte du génocide. Je ne vais pas forcément donner son nom, hein, parce que moi, pour que vous pourriez le retrouver, mais ça permet de comprendre que la technologie, quand elle est abordée à un niveau suffisamment élevé, on la déshumanise un petit peu et on oublie un peu quelles sont les implications directes sur le terrain. Bon, tout à l'heure, dans le cas de l'Iran, on a parlé du massacre dans l'école de Minhab, où on voit qu'une erreur, entre guillemets, produite par un système automatique, aboutit à un véritable massacre d'enfants. Mais dans le cas de Gaza, ce qui est effrayant, c'est les mouvements de population où on dit aux gens du nord de Gaza, il faut partir au sud, on installe des barrages, on installe des checkpoints, les gens sont obligés de passer à travers. Et là, on se rend compte à quel point l'identification des individus est sophistiquée. Parce que ces mouvements de foule du nord vers le sud et tout, qui étaient répétés et tout, qui obligeaient les gens à se déplacer dans les pires conditions, c'était en même temps des filtres qui permettaient de prendre les individus que l'on voulait prendre. Et ces filtres, apparemment, fonctionnaient très bien. La base de données dont j'ai parlé, du système Nimbus, Lavender et tout, a identifié quelque chose comme 35 000 ou 40 000 combattants. Donc,
Écoutons le témoignage,
écoutons le témoignage voilà.
De ce journaliste palestinien à Gaza.
Voilà. Donc je lis. Nous avons entendu dire que le passage vers l'Égypte pourrait être ouvert à ceux qui pouvaient payer une taxe. Avec l'aide de collègues à l'extérieur, nous avons réuni l'argent et nous nous sommes préparés à partir vers le sud. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés au poste de contrôle de Netzarim en avril 2024. J'avais longuement réfléchi à ce que cela serait d'affronter les forces qui nous tuaient. Pas le char, pas le drone, pas la voix inconnue au téléphone, mais un soldat en chair et en os. Je me demandais et craignais qui et quoi il verrait. Et je me demandais si, en me tenant devant un être humain, je deviendrais moi aussi visible en tant que tel ou pas. Une fois que la machine m'a identifié, les soldats m'ont séparé d'Asma, ma femme, et de Rafik, mon fils, sans poser la moindre question. Un soldat m'a montré le sol du doigt, m'invitant silencieusement à y déposer mon téléphone, mon portefeuille et mes clés, puis m'a fait signe d'enlever ma chemise, mon maillot de corps, mon pantalon, mes sous-vêtements. Rafik essayait de marcher vers moi. Je pouvais entendre sa voix douce, « Bah, bah !» Une voix sur le côté a menacé de tirer sur notre enfant. Asma l'a pris et a continué à avancer. Ils m'ont attaché les poignets avec des liens en plastique, m'ont bandé les yeux et m'ont traîné dans une pièce. On m'a poussé au sol, les mains liées derrière le dos, un soldat me poussant le visage vers le bas par derrière. Ils m'ont laissé là. Personne n'a parlé pendant ce qui me semblait être des heures. Quand ils m'ont relevé, une main m'a pris par le bras et m'a déplacé sur une courte distance avant que les soldats ne pressent mon front contre le mur dur et brûlant. Le cliquetis d'un fusil armé près de mon oreille a résonné. Quelques secondes plus tard, ils m'ont retourné et le tissu a été retiré. J'ai plissé les yeux dans la lumière. Toujours déshabillé. L'homme devant moi portait un équipement complet, le casque détaché, un bloc-notes et un téléphone sur les genoux. Il souriait comme le font les gens lorsqu'ils font semblant de ne pas avoir de soucis. « Mohammed, comment vas-tu ? Nous allons répondre à une question à la fois. » Son arabe était parfait, assez proche du mien pour être désarmant. Je répondais dans un mélange décousu d'arabe et d'anglais, en anglais lorsque je me sentais piégé, et en arabe lorsque j'avais besoin de me sentir moi-même. Il a commencé à passer en revue ma vie, mes études, mon travail, ainsi que les lieux où j'avais effectué des reportages, Al-Shifa, Al-Aouda, Al-Daraj, en les citant dans l'ordre. Il m'a posé des questions sur ma famille. Lorsque j'ai hésité, il a ajouté les noms de mes cousins, citant le quartier où ma famille s'était réfugiée. Que je réponde ou que je bafouille, ces notes enregistraient tout. L'interrogatoire m'a paru durer des heures. Au cours de ces moments interminables, j'ai compris que l'interrogateur avait sous les yeux une copie de ma vie, construite à partir d'une surveillance incessante, compilée à partir d'appels téléphoniques, de caméras et de coordonnées. Puis il a commencé à parler de mon fils. Rafik est toujours là ? Comment va sa poitrine ? Pendant un instant, mon esprit s'est vidé. C'était une question qui venait de l'intérieur de ma propre maison. Cela m'a ramené en 2022. Lorsque Rafik n'avait que 11 mois, pendant notre séjour aux Émirats Arabes Unis, Rafik avait contracté une infection pulmonaire et avait passé 2 nuits dans un hôpital de Dubaï. Ce n'était pas grave, il allait bien. Mais voilà, c'était un épisode de ma vie dont je n'avais jamais parlé et sur lequel je n'avais jamais écrit. L'interrogateur en parlait comme s'il cochait une case. Leur connaissance de la brève maladie de mon fils devenait venir de quelque part. Des dossiers hospitaliers des Émirats Arabes Unis, des enregistrements de mes appels téléphoniques, des copies de mes emails. J'avais l'impression qu'ils avaient pénétré dans mon esprit.
Merci, Claude.
C'est terrible.
Oui, c'est terrible. Alors, est-ce que tu peux dire quelque chose où nous sommes aujourd'hui avec l'intelligence artificielle? Là, quand tu avais dit tout à l'heure, quand tu préparais cette émission, qu'à un moment donné, avec toutes les données que tu que tu regardes, enfin, toutes les informations, à un moment donné, tu te sentais envahi et ça avait annulé ta pensée d'une certaine manière. Enfin, j'avais compris comme ça, mais voilà, est-ce que aujourd'hui.
Disons, ça m'a, sur le coup, ça m'a paralysé parce que ça donne un sentiment de quelque chose d'écrasant.
Ça et nous déshumanise, enfin, ça nous.
Ça oui, nous... et ça nous. Enfin, c'est comme depuis quel génocide à Gaza. Enfin, c'est. On perd foi dans le genre humain. C'est terrible comme sensation. Hein. C'est qu'on se dit, mais tout est perdu. Enfin, il n'y a pas. Il n'y a pas de but, il n'y a rien. Il y a un vide qui est rempli par la violence et par l'appât du gain. Bon. Mais la vie ne peut pas se réduire à ça. Ce n'est pas possible. Alors, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait, comme je disais tout à l'heure, une bonne littérature. Il y a beaucoup de littérature qui est consacrée au sujet. Il y a des gens qui réfléchissent. Il faut faire un peu la part des choses, mais en tout cas, il y a une réflexion. Et déjà, ça a évacué l'idée que j'avais eu au début, qui était de me dire qu'on était en train de rater une réflexion sur le fond qu'on doit absolument mener. Quoi. Quand je dis « nous hein, », c'est les gens de la mouvance à laquelle j'appartiens et à laquelle tu appartiens aussi, qui veulent un avenir différent pour la planète et qui imaginent des choses beaucoup plus harmonieuses et une vie beaucoup plus belle pour tout le monde. Donc, y a un véritable travail qui est fait. Et sur le site dont je m'occupe, là, qui est Chronique de Palestine, dont j'ai la responsabilité, si vous allez sur la page d'accueil, vous avez des onglets en haut et il y a un lien qui est proposé vers un groupe de réflexion qui s'appelle Al-Shabaka, qui veut dire le réseau en arabe. Al-Shabaka, ce sont des Palestiniens, des jeunes Palestiniens qui font un travail de réflexion extrêmement intéressant sur toutes les questions centrales et importantes.
Là-bas, dans la diaspora, un peu partout
Ils sont également dans les territoires occupés, et ils sont aussi dans la diaspora. Mm-hmm. Donc, ils recouvrent tout le champ de la population palestinienne. Et eux ont produit d'excellents documents sur ces questions de l'IA et de son utilisation dans le contexte du génocide. Et puis, sur le site, il y a aussi un mot-clé qui est IA, simplement, dont je me suis essentiellement servi pour préparer cette émission. Je me suis rendu compte qu'au fil des quelques années, on avait quand même stocké tout un matériel exploitable qui expliquait bien les choses. Bon, il manque quelques articles importants qu'on va essayer de combler d'ici quelques temps, mais quand même, il y a quelque chose qu'on peut vraiment, vraiment utiliser sur ce site pour avoir une approche générale, critique et assez pertinente de ce phénomène d'IA et de son utilisation dans le contexte génocidaire.
Donc, si tout le monde veut s'informer, on peut aller sur ce site et apprendre. Et,
oui, je recommande vraiment. Quoi. Mm-hmm. Oui. Bon, ce site, il est perfectible, hein, mais en tout cas, c'est vraiment une ressource tout à fait exploitable. Alors, Al-Shabaka, par exemple, produit des recommandations. Et quand ils font une étude, sur quel que soit le sujet, ça se termine toujours par des recommandations. Alors, les recommandations, c'est qu'il faut que le droit international couvre ces questions d'intelligence artificielle.
Donc, on peut faire pression au gouvernement
Oui, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des organisations spécialisées sur les questions de droit international qui s'en emparent, qui fassent des propositions, des colloques internationaux soient organisés, qu'on fasse pression sur l'Union européenne.
Il y a de quoi faire.
Il y a de quoi faire. Il y a énormément à faire. Bon, ça paraît démesuré, mais en tout cas, c'est une piste. C'est qu'il faut... Il faut, par exemple, imposer un moratoire. Ce n'est pas parce qu'on peut faire des choses, on peut développer, qu'il faut forcément systématiquement les faire. Alors, il ne faut pas s'illusionner sur le moratoire. Ça n'empêchera pas les gens de travailler en catimini. Mais en tout cas, il faut que, quelque part, l'exigence soit posée en disant « on arrête, on réfléchit, on ne va pas dans le mur. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Il faut imposer ce moratoire. » Le moratoire permettra de développer des aspects,
des freins,
d'expliquer, de faire un travail pédagogique et de faire un travail de mobilisation.
Et d'éthique.
Et là, l'enjeu est vraiment trop important. Donc, ça fait partie de l'essentiel des recommandations. Mais la première recommandation, oui, qui est ma recommandation personnelle, c'est qu'il faut s'emparer du sujet. Il ne faut pas se laisser impressionner par le discours ambiant sur l'IA. Il faut décoder les choses et il faut les comprendre et pour pouvoir les critiquer et éventuellement les corriger. La première chose. Voilà pour l'essentiel.
Merci beaucoup, Claude, d'être venu aujourd'hui. Merci. Et aux auditeurs et auditrices, à bientôt.
Bintishalabi.